BFM Business partenaire.
BFM Stratégie. Avec Frédéric Simotel. Sur BFM Business.
Bienvenue dans cette émission BFM Stratégie en partenariat avec le Boston Consulting Group et nous retrouvons celui qui est à l'origine de cette émission, Xavier Fontané. Bonjour Xavier.
Bonjour Frédéric.
Merci d'être avec nous, ancien président de Beneteau il y a très longtemps, Dessilor, c'était pas si vieux que ça. Et justement, il nous fait profiter de toute son expertise et ses connaissances dans le monde des entreprises et justement dans les coulisses des stratégies des entreprises pour, et je vous conseille d'ailleurs d'aller voir en replay tous les cours. Vous allez voir, on a toujours des entrepreneurs que l'on continue à croiser dans la rue, dans les salons, qui nous disent merci, merci, grâce à ces cours, j'ai compris des choses et je vous assure que tout ce que je vous dis est purement vrai. On va parler aujourd'hui de fiscalité. Alors, pas en tant que fiscaliste, parce que sinon on va vite s'endormir, mais en tant qu'économiste, l'idée est de chercher à mieux comprendre son effet sur l'entreprise et les équilibres concurrentiels, en prenant le cas, de quelque chose dont on a beaucoup parlé, la taxe Zuckman, et dont on reparlera certainement parce que bientôt vont arriver les premières éléments des campagnes présidentielles et ça va certainement ressortir. Alors le projet de taxe Zuckman suggère de prélever chaque année 2% sur les redevables ayant une fortune supérieure à 100 millions d'euros. Ça va surtout frapper les entrepreneurs. Alors sur le papier on se dit oui finalement ils gagnent beaucoup d'argent, mais on va voir que c'est beaucoup plus complexe que tout cela, Xavier, si on veut être précis.
Oui, si on veut être précis, effectivement les gens qui ont plus de 100 millions d'euros de fortune, en fait c'est principalement les entrepreneurs, c'est pas des héritiers. Et donc, on va essayer d'expliquer quel est l'impact sur une entreprise du paiement de l'impôt.
Et voir comment cette taxe va avoir un effet à court terme, moyen terme. Alors, on peut revenir un peu dans les cours pour se rafraîchir un peu les mémoires.
Alors, avant de rentrer, on va reprendre les cours. Alors, regardez la première slide. Donc, je vous conseille de prendre toutes les émissions.
Regardez-nous plutôt en vidéo, vous l'avez compris.
Entre la 10 et la 20. Il y a une dizaine d'émissions qui vont rentrer, mais je vais synthétiser un peu les éléments. Donc, vous savez que une des grandes découvertes, c'est qu'il y a un parallélisme entre le chiffre d'affaires et les actifs, que c'est proportionnel. Si on veut faire deux fois plus de voitures, il faut deux fois plus de capital que. Et donc cette règle de proportionnalité est très très importante. Prenez le cas de l'entreprise 1 qui a des ventes de 100 pour les actifs de 100, elle fait un bénéfice net de 20. Écoutez, si elle paye pas de dividendes et s'endette pas, elle réinvestit 20 et croit 20. Vous voyez. Bon, si maintenant on a un actionnaire qui veut du dividende, on prend la même entreprise. La seule différence, c'est que on veut un dividende de 10, à ce moment-là, on ne peut réinvestir que 10.
Donc, l'entreprise. On rappelle, on a un bénéfice de 20, donc voilà. On met 10 en investissement.
On enlève
10 en
dividende. Il ne reste plus que 10 à investir. 10 sur 100 d'actifs, ça fait 10. Et donc, on divise par 2 la croissance de l'entreprise. Si à l'inverse, on a un actionnaire qui dit je ne veux pas de dividende et je crois dans l'entreprise, je fonce. Donc, c'est l'entreprise 3. Vous voyez, elle est des ventes de 100, un actif de 100. Bénéfice net 20, pas de dividende. Elle s'endette de 1 pour 1. Donc, c'est musclé, mais beaucoup de gens l'ont fait. Moi, j'ai passé ma vie à faire ça. Et donc, elle investit 40 et croit 40. Vous voyez ? Donc, en fait, on voit bien que, suivant les politiques financières, les vitesses d'entreprise changent énormément. Ouais. Alors, on va voir en quoi une taxe Zuckman bouge. Peut bouger la vitesse de l'entreprise.
Parce qu'on comprend, le leadership et l'assurance de bons résultats durables, c'est évidemment une affaire de croissance. L'effet de la taxe sur la croissance doit être bien analysé. Et alors, la taxe Zuckman, ce qui est un peu gênant parfois, qu'on soit pour ou contre, c'est qu'elle parle de valeur d'entreprise.
Voilà. Alors, c'est la deuxième. La dette, le dividende, c'est interne. La valeur de l'entreprise, c'est une valeur externe. C'est la valeur que donne le marché de l'entreprise. Alors, on a fait des tas de cours là-dessus, mais pour faire simple, il y a un concept qui s'appelle le PER, Price Earning Ratio. C'est le rapport qu'il y a entre la capitalisation, donc la valeur de l'entreprise, et son bénéfice. Alors, c'est un truc qui existe depuis Venise. Ça fait 500 ans.
Et d'ailleurs, qu'il y a des choses un peu irrationnelles, parce que quand on voit la valeur de la capitalisation par rapport au bénéfice, je vous mets juste dans le 12 juin, l'IPO, l'entrée en bourse de SpaceX, qui a une capitalisation qui va atteindre les 1700 milliards. Pour des bénéfices, il faut aller creuser pour les chercher.
Voilà. Donc tout ça, pour les marchés financiers, il y a du très long terme. Oui. Il y a des petites bulles par moment, d'accord. Bon, il y a eu les tulipes en Hollande. Donc là, on va rester quand même un peu concret. On va rester dans un marché européen bien contrôlé. On va dire que ce que j'appelle licorne, c'est des entreprises qui vont toutes nouvelles, qui sont extrêmement brillantes, qui ont un grand potentiel. Donc là, le price earning est très élevé. Parce que le résultat, on sait qu'il va grandir énormément. Ah oui. Donc,
bon, la capitalisation est élevée, mais le résultat...
Voilà, même résultat parce qu'on met un PI très élevé.
D'accord.
Hein. Bon, après, quand vous prenez le CAC 40, en moyenne, c'est 15. Hein. Et le CAC 40, il évolue. Les plus brillants du CAC 40, c'est 30. Et puis les boîtes du CAC 40 qui n'ont pas de croissance, c'est 7 ou 8. Vous voyez ? Bon. Bon, si vous prenez le non-coté, alors le non-coté, c'est le gros de l'économie. Hein. Il y a peut-être qu'un tiers qui est coté. Hein. Les deux tiers, bon, là, en moyenne, quand on regarde les transactions d'entreprise, c'est 12.
D'accord.
Hein. Donc, on va rester dans les ordres de grandeur. Hein. Mm-hmm. La stratégie, c'est l'art des ordres de grandeur.
Et
vous mettez ça. Donc, vous avez pigé l'effet de dividende et de dette sur la vitesse et price earning. Et maintenant, on a de quoi commencer à réfléchir.
Voilà, on va regarder ce que l'effet de cette taxe justement sur la croissance et de quoi on parle exactement, Xavier.
Alors on va prendre une jolie entreprise, une jolie licorne. Hein, donc là, c'est vraiment les entreprises qui ont des PI extrêmement élevés. Alors on va être une entreprise industrielle, c'est peut-être elle fait des batteries révolutionnaires, vous voyez, des genres de sociétés comme où ils font des ordinateurs quantiques, vous voyez le genre de. Mais c'est industriel. Hein. Donc vous avez des ventes de 100 pour les actifs de 100 et fait un bénéfice de 20. Alors c'est une entreprise qui ne paye pas de dividendes parce que comme ça croît,
oui.
Faut surtout pas en payer. Bon là, comme elle est très rentable, elle s'endette pas, elle investit 20 et croît 20. Bon, 20% de croissance, vous savez, c'est assez fort, hein, faut les tenir. Hein. Et alors, comme c'est une licorne, elle a un PI de 35, elle vaut 700. Hein. Donc l'entreprise vaut 7 fois son chiffre d'affaires.
Hein. Ouais.
Et il y en a plein comme ça.
Hein. Ce qui paraît raisonnable.
Hein. Ah ben alors, la Californie en est remplie. Et il y a quand même déjà, en Europe et en France, il y a un certain nombre de jolies licornes comme ça.
Mm-hmm.
Donc c'est des choses qui existent, hein, c'est réel. Alors, donc, regardons ce qui se passe.
Donc, on rappelle, hein, elle a des ventes de 100, des actifs de 100, et donc elle a ses 700, sa valorisation est autour de 700 et son price
dont la taxe du
pain, 35. Hein.
Alors, évidemment, c'est une boîte, elle est possédée par quelqu'un, donc il avait tout son argent dans la boîte, donc la façon de payer la taxe, c'est de le payer avec l'entreprise.
Oui.
Donc, ça va être le dividende. Alors, qu'est-ce qu'il a ? La boîte vaut 700, 2% de 700, c'est 14. Mais ça, c'est 14 qu'on paye à l'impôt. Il faut sortir un dividende.
Donc 2%, c'est la taxe. Hein.
C'est la taxe. Mais ça, c'est ce que touche l'État.
Mm-hmm.
Mais il faut sortir plus parce que il y a un impôt sur le dividende. Quand il faut sortir. Donc, si on veut avoir une taxe de 14, il faut sortir 20. Parce qu'il y a 30%, donc 6, qui part en impôt. Donc, l'impôt paye l'impôt. On ne parle jamais de ça. Hein.
Oui.
Mais pour payer l'impôt, on génère de l'impôt parce que là, c'est par le dividende.
C'est-à-dire qu'on va sortir 20 de son.
Il faut sortir 20 pour payer 14.
Pour payer les 14.
Et on a un résultat de 20, donc il reste zéro. Donc, en termes simples, il n'y a plus d'investissement.
Oui.
Donc, la taxe Zucman, elle met l'investissement à zéro.
Donc,
c'est catastrophique. Hein. Mm-hmm. On a un marché qui croit à 20, on ne croit plus. Et puis, alors, c'est bien pire que tout. Parce que ce que ne disent pas la taxe Zucman, c'est que comme vous ne croissez pas dans un marché qui croît à 20%, vous savez très bien la courbe d'expérience. Hein. Alors ça, vous regardez les 10 premières émissions.
Mm-hmm.
Il y a une courbe d'expérience et la pente en général. On dit pente de 80%, les prix baissent de 20% chaque fois que ça double.
Mm-hmm.
Là, vous êtes dans un marché qui croît à 20% parce qu'elle a des concurrents, la licorne.
Oui.
Donc le concurrent voit 20, la licorne ne croit pas. Mais les prix baissent de 20%, ils vont baisser de 20% en 4 ans. Donc le résultat de la licorne en 4 ans est à zéro. Donc non seulement...
Elle a une croissance nulle.
Et à ce moment-là, elle est obligée de payer à partir d'une croissance nulle et de plus de résultats.
Mm-hmm.
Elle est obligée de s'endetter, le truc de...
Ah, parce que le 20%, se double tous les ans. C'est pour ça qu'en 4 ans, on va arriver à
cette... C'est-à-dire qu'en plus, les résultats qui étaient 20 la première année, ils descendent à toute vitesse. Donc, rendez compte, vous cassez l'investissement et en plus, les prix vont descendre. L'entreprise ne croissant pas, il n'y a pas de gain de productivité,
ouais.
Donc vous l'effondrez.
Alors qu'au départ, on se dit, bon, c'est plutôt une bonne idée d'aller...
Ils sont très riches, qu'est-ce que c'est que le truc sur les 700? Ben oui, c'est qu'on coule la boîte. Hein. Alors moi, je ne comprends pas qu'on n'explique pas, ça.
Alors là, j'essaie de prendre un peu le contre-pied, parce que là, vous parlez d'une belle ETI, belle licorne. On en a quelques-unes, fort heureusement, en France, mais c'est une belle étoile, une belle entreprise. Mais si on a une entreprise un peu plus classique, une ETI, une grosse PME, avec une valorisation plus faible, et là, on en a beaucoup en France, notamment.
Alors là, oui, Frédéric, vous êtes en train de me dire, Xavier, vous poussez le bouchon un peu loin, en prenant un PI. Alors écoutez, là, on va prendre une boîte, c'est vraiment, c'est une belle entreprise vendéenne.
Mm-hmm. Ouais.
On en a comme ça des centaines en France. Donc, elle est dans un village, il y a une grosse usine. Elle a des actifs de sang pour des ventes de sang, donc on reste dans l'industrie. Et là, bon, c'est une boîte qui, bon, elle fait pas 20% de résultats, elle fait 10, hein, parce qu'il y a déjà une bonne concurrence. Bon, les gens sont prudents, ils s'endettent pas. Et ils se payent un dividende. Ouais. Hein, bon, au fond, un dividende. Et donc, ils investissent. Donc, 7, c'est 10 moins 3. Et donc, 7 sur 100%, ils croissent à 7.
Donc, bénéfice net. Ils ont un bénéfice net de 10.
Voilà.
Ils ont 3 qui versent en dividende. Ils ont 7 qui vont servir en réinvestissement. Et du coup, la croissance, bon, on arrive à une croissance.
Vous voyez, ça, c'est la jolie boîte industrielle. On trouve ça dans des régions comme, on trouve ça en Savoie, dans Haute-Savoie. On trouve ça en Vendée. On trouve ça, oui, en Bretagne. Bon, voilà, c'est la jolie boîte. Bon, mais c'est pas non plus des trucs qui explosent. Par contre, elle vaut 100 briques, hein.
Elle vaut 100 millions. C'est ça. Et moi, enfin, s'il y avait cette taxe Zuckman, je viens l'appliquer, on le rappelle, c'est 2% pour les entreprises.
Alors, on passe à la classe suivante. Elle vaut combien cette boîte, hein? J'étais un peu vite. Alors, vous voyez qu'elle a bénéfice de 10,
c'est la PIB 12. C'est la fortune, hein. C'est pas la valorisation de l'entreprise, on est d'accord.
Oui, mais c'est la fortune de l'entrepreneur. L'État, quand il va voir, il va dire, la boîte vaut 120, vous me devez 2,4.
Alors, allons-y.
Alors, vous voyez, le truc est très simple. Donc, le PIB, là, c'est plus les 50 qu'on avait ou les 35, c'est 12. Donc, la valeur, c'est 120. Mm-hmm. D'accord? Alors, la taxe Zuckman de 2%, c'est 2,4. Mais pour payer les 2,4,
il faut sortir un dividende.
L'État prend 30% au passage. Donc, je suis obligé de sortir 3,4. Bon, je me garde mon dividende. Mais à ce moment-là, il ne reste plus que 3,6 à investir. Oui. Donc, en fait, la croissance, on l'a divisée par 2.
Alors qu'on rappelle tout à l'heure, on verse un dividende de 3, mais on réinvestissait 7. Là, déjà, avec cette taxe-là, on a pu investir que 3,5%.
La grande licorne qu'on voyait, on a carrément foutu la croissance à zéro. Bon, là, c'est la bonne boîte sympa, travailleuse, qui emploie du monde dans le coin. Eh bien, la croissance, elle passe de 7 à 3,6. Bon, alors les beaux esprits vont dire, qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ouais. C'est les petits pourcentages. Alors maintenant, suivons les cours de stratégie et regardons ce qui se passe. Alors, il faut revenir aux 10 premières émissions qui expliquent la courbe d'expérience. Alors là, j'ai mis une petite courbe d'expérience. Alors, vous savez que ce qui compte, c'est l'expérience cumulée, hein. Mm-hmm. Donc, en fait, on sait que les prix et les coûts descendent avec l'expérience cumulée. Alors là, j'ai pris un cas où notre licorne, elle a un concurrent. Notre licorne, c'est donc la flèche verte, hein, qui accumule... Alors, c'est sur 10 ans, hein. Et puis le concurrent, c'est qui croit, lui, comme le marché, à 7. D'accord ? Donc, vous savez que, hors de grandeur, 7% sur 10 ans, on double.
D'accord. Hein ?
Donc, dans les 10 ans, l'expérience va passer à 200. Donc, la pente va descendre, vous voyez ? Et donc, à ce moment-là, en gros, on pense que les prix, ils vont baisser de 10%. De 20%, pardon, sur 10 ans. Notre licorne, elle va croître qu'à 150. La moitié. Donc, les prix vont baisser que de 10. Les prix de revient. Donc, le concurrent, ses prix de revient baissent de 20, doublement.
Oui.
Et notre concurrent, de 10. Donc, ça veut dire que le résultat de notre société, il est zéro. Il est à zéro.
Et ça veut dire que si on poursuit à quelques années, l'entreprise, elle ne dégagera plus de marge.
Plus de marge. Déjà, au bout de 10 ans, plus de marge. Mm-hmm. Et après, alors, en gros, la taxe Zuckman, ça vous tue en très peu de temps. Les boîtes extraordinairement brillantes, les boîtes un peu moins brillantes. Il y avait une petite faute sur la slide, c'est pas 190 à gauche, c'est 100. Hein. Mm-hmm. Voilà,
on peut importe. Mais ce que vous nous expliquez là, c'est assez effrayant parce que ça, si on compte cette taxe, si on compte les impôts, enfin, etc., ça paraît tout bête, c'est 2% sur une fortune de 100 millions. Vous avez raison, Frédéric.
Alors, regardez la slide suivante. J'ai fait le calcul pour vous. Regardez la slide suivante. Et ça, on n'en parle pas. Mais quand vous prenez toute la taxe sur le capital et le résultat, d'abord, vous avez l'impôt sur le bénéfice, que je mets à 25.
Oui.
Bon. Mais après, vous avez l'impôt sur le dividende, qui est à 30.
Qu'on a été obligé de sortir pour pouvoir régler la taxe.
Zuckman, voilà. Et puis, la taxe Zuckman, c'est 34. Donc, pratiquement 100% d'impôt. Ça veut dire qu'en fait, c'est ce truc qu'on n'a pas dit. Et quand vous prenez toute la chaîne d'impôt depuis le début, taxe Zuckman, c'est 100%. Donc, ça fout tout le capital en l'air.
Donc, vous ne travaillez que pour payer la taxe.
Mais ça veut dire que toutes les entreprises arrêtent de croître.
Oui.
Alors, ça, on ne l'a pas dit, vous voyez. Hein, on dit, écoutez, bon, ils disent, écoutez, c'est pas grave, vous vendez du capital. Donc, vous rendez compte, le gars, il est obligé de vendre un bout de sa boîte à l'État tous les ans. Mais après, qu'est-ce qu'il va faire à l'État? il va évidemment vendre les participations. Il va vendre à qui ? Il va les vendre aux concurrents. Vous vous rendez compte le soupe que vous créez ?
Ouais.
Donc vous déstabilisez complètement l'équilibre de la boîte. Donc entre nous, je trouve que on a expliqué ce qu'était cette, mais on n'explique pas le côté catastrophique
sur l'économie. Oui, on est resté sur la fortune à la limite du propriétaire.
Une fortune. Mais ce qu'on rend compte, c'est que ça casse complètement la boîte et qu'on fout complètement l'économie en l'air.
Et encore là, Xavier, là on a parlé. Alors vous avez pris plusieurs exemples, mais là on parlait d'une ETI. Mais si je reviens sur Malicorne. Là, c'est encore plus.
C'est bien pire. Hein. Bah, la licorne, vous l'avez dit en 4 ans. Mm-hmm. On l'a fait sauter en 4 ans, la licorne. Hein. Et ça, on ne l'a jamais expliqué. Hein. Mais c'est parce que les économistes n'ont jamais géré d'entreprise. Hein. Ouais. Donc, il faudrait demander à nos économistes, quand vous leur passez le micro, il faut qu'ils aient passé 10 ans dans une entreprise et de préférence qu'ils aient géré eux-mêmes une entreprise avec leurs sous.
Ouais, bon, voilà. Et je me souviens, oui, d'une définition que vous donniez de c'est Helmut Schmidt, hein. Alors là, on remonte aussi à quelques années, qui disait le profit d'aujourd'hui, c'est l'investissement de demain et l'emploi d'après-demain.
Voilà. Alors, si vous voulez, l'attaque Zucman, c'est qu'en fait, les Français n'ont pas compris le lien qu'il y a entre le profit et le capital et l'emploi. Et les Allemands, grâce à Helmut Schmidt, avait cette phrase que vous mentionnez formidable, le profit d'aujourd'hui, c'est l'investissement demain et l'emploi d'après-demain. Et en fait, le profit, c'est l'enfant du capital. On ne fait pas de profit sans capital. Donc, c'est le capital qui produit l'emploi. Mmh. Donc, le capital est ami de l'emploi. Et ça, les Français ne font pas le lien. Voyez. Mmh. Alors que l'argent investi à risque dans des machines-outils pour donner du boulot à ses compatriotes, c'est presque des saints laïcs, hein, les gens qui font ça. Bon. Et ça, on ne fait pas le lien, comprenez ? Alors qu'il faut faire le lien, voilà. Hein. Alors, slide suivante, c'est un point absolument capital, c'est que, évidemment, je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'au fond, on en veut tant au capital ? Et il faut être objectif, hein, parce que dans les émissions, être objectif. C'est sûr que vous prenez le CAC 40, vous prenez le CAC 40 sur une vingtaine d'années, vous voyez qu'il croît plus vite que le PIB. Mmh. Notre PIB, ça fait une croissance de 2 qui est tombée à 1
oui.
sur 50 ans. Le CAC 40, lui, il fait 6. Donc effectivement, ça croît plus vite. Alors pourquoi ? Parce que dans le CAC 40, vous avez des leaders qui croissent plus vite que l'économie. Alors la vraie question, c'est comment faire participer tous les Français à ce gain du capital qui va plus vite que l'économie.
Parce que c'est ça, hein, c'est ce qu'on dit. Hein.
Alors,
la capitalisation va plus vite que l'économie.
Bah évidemment. Hein. Alors, la capitalisation, le mot capital a été abîmé, donc personne veut de capital, mais regardons un peu. Alors, faisons un petit tour du monde. Hein. Allons à Singapour. Les Singapouriens, c'est ceux qui ont le mieux. Slide suivante. Regardez Singapour. Donc, moi, je connaissais très bien Singapour parce qu'on avait le siège des Silors à Singapour et on faisait les lunettes de Lee Kuan Yew, le président. Donc, on connaissait tout ça. Et alors, vous avez donc, ils sont depuis 62 en retraite par capitalisation. Il y a deux fonds, GIC et Temasek. Mm-hmm. Je connais bien tous les deux parce qu'on a, quand j'étais chez Schneider, on a fait des investissements avec Temasek. Bon. Eh bien, la somme des capis, c'est 1225 milliards.
Ça, c'est de GIC et de Temasek. Ouais. Ces fonds.
C'est là-dessus que la retraite est la retraite par capitalisation de Singapour. Et alors, le PIB de Singapour, c'est 575 milliards. Hein, il y a 7 millions d'habitants. Ouais. C'est pas comme chez nous. Alors, regardez. Je prends la rentabilité 6% de 1225 par PIB, 13%. 13%, c'est le coût des retraites dans le PIB français. Ça veut dire que les Singapouriens peuvent prendre leur retraite aujourd'hui sans cotiser. Mmh. Parce que, ils sont en capi depuis une cinquantaine d'années. Vous voyez la puissance de la capi ?
C'est ça, parce qu'eux, ils ont commencé à calculer ça dans les années
62. Première décision de Lee Kuan Yew, on fait des retraites par capi en 62. Vous vous rendez compte ?
Et aujourd'hui, c'est ça. Ce que vous nous expliquez, c'est qu'ils ont une valeur des fonds de 1225
milliards pour un PIB
de 575. Si je comprends bien, c'est comme si nous avions des fonds de pension pour nos retraites. Aujourd'hui, c'est 7 000 milliards. En gros.
Attends, les retraites, c'est 380 milliards.
380 milliards.
C'est 13% du PIB.
Oui, pardon.
Mais non, les retraites, c'est 14% du PIB. Mm-hmm. Alors nous, actuellement, on a une dette de 3500 milliards. Mm-hmm. Mais si on avait fait une capitalisation, on aurait des capitalisations de deux fois le PIB, c'est 7000 milliards.
7000 milliards, voilà, c'est ça.
Vous vous rendez compte, il y a 10 000 milliards de différence. Si on avait fait des capis depuis longtemps, on aurait des fonds de retraite qui seraient à ces niveaux-là. En gros, on aurait 7000 milliards, deux fois le PIB. Alors qu'on a une dette, vous voyez, c'est 10 000 milliards. La bêtise à 10 000 milliards, vous la voyez ?
Parce que là, ce que j'essaie de comprendre avec tous ces chiffres, c'est qu'en gros, à Singapour, par exemple, ils peuvent aujourd'hui se payer leur retraite sans
cotiser.
Sans cotiser.
Voilà.
Alors que nous, on cotise.
Oui. Et on est en déficit et on monte la dette. Oui. On est en plus en déficit. Alors regardez, la solution, évidemment, c'est l'actionnariat salarié. Hein. Et moi, j'ai connu ça avec Essilor, puisque Essilor était une vieille coopérative. Et si vous voulez, la vraie solution pour associer les Français à la croissance du capital qui va plus vite que l'économie, c'est évidemment l'actionnariat salarié. Alors, on va prendre un exemple, je reprends la PME. Notre petite PME tout à l'heure, la petite PME, on va dire vendéenne, qui fait un chiffre d'affaires de 100, qui vaut 120. On va dire qu'on a l'actionnariat salarié à 25%. Les gens qui ont bien réussi l'actionnariat salarié, mais des boîtes comme Bouygues, c'est 28, vous voyez, des 26 à 20.
Qui,
vous voyez,
chaque année, remettent chaque un peu au pot.
Alors, le truc est assez simple, leur demandeur, je vois bien avec Essilor, on émet 0,7-0,8% du capital, et les gens, chaque année, mettent la moitié de leur intéressement.
Oui.
Avec tout ça, vous arrivez sur 30 ans.
On rappelle, c'est limité, hein. Tout ça est limité pour les salariés.
Les salariés, on va faire un bon système.
D'accord.
Où
un
on
système
joue
qui
truc.
Roule.
Alors, c'est joué, et donc, on met pas des sommes, on met la moitié, vous voyez, de l'intéressement. Donc voilà. Ouais. C'est des ordres de grandeur. Si vous en voulez plus, on fera une émission beaucoup plus détaillée là-dessus. Je suis friand du sujet. Alors, à ce moment-là, 25% de 120, c'est 30. Bon, vous savez, en général, une boîte, c'est 150 000 euros par salarié. C'est une boîte qui a 600 personnes. D'accord? Ça veut dire que le capital par salarié, 50 000. Alors que ces 50 000, pour les petits nouveaux qui viennent d'arriver, c'est zéro. Pour ceux qui partent, c'est 100 000.
D'accord.
Ah, maintenant, regardez la slide suivante. Si je pars à la retraite avec 100 000, combien est-ce que je gagne? Alors, vous savez qu'en gros, on peut mettre plus que 8% parce qu'on va dire qu'à la fin de votre vie, il n'y a plus de capital. Donc, chaque année, vous profitez de la rentabilité, hein, et puis vous vendez un petit bout. Alors, en gros, vous pouvez prendre 8%. Hein, et ça, alors si vous voulez comprendre, allez sur le chat GPT ou Claude, ils vous expliqueront très bien 8. Mais 8% de 100 000, ça fait 8 000. Et ça fait en gros 33% de la retraite. Donc, vous augmentez.
Donc, en ayant
33%
ça,
de votre retraite.
On peut récupérer 8 000 euros par an.
Ben oui. Vous voyez, donc, c'est une bonne façon de faire associer le personnel à la beauté de l'économie. C'est de faire de l'actionnariat salarié. Mm-hmm. Hein. Donc, moi, je vous pousserai que BFM Business, vous ayez tous actionnaires salariés, on en discutera. Je discuterai avec votre boss, si vous voulez. Hein. Bon, c'est moi qui prends ça sur moi. Slide suivante. Quand vous faites la comparaison avec Zucman, vous voyez que l'actionnaire salarié vous donne 8 000 euros par mois. Hein. Alors, si on fait le même truc avec la taxe Zucman, Piketty Zucman pense qu'ils tireront 15 milliards de la taxe. Alors, c'est de la vaste rigolade. Mm-hmm. Il y a deux pays qui ont essayé ça, notamment la Norvège. Et à ce moment-là, les gros, gros capitaux sont tous partis à toute vitesse. Oui. Donc, je crois qu'ils ont touché 10 fois moins que ce qu'ils espéraient. Hein. Bon, puis ils ont tout de suite arrêté. Bon, alors, mais vous faites 15 milliards par 17 millions de retraités, ça fait 900 millions. L'actionnaire salarié, c'est 8 000. Donc, vous vous rendez compte, il n'y a pas photo. Donc, je pense que je comprends, si vous voulez, la volonté des Français d'être associés à la croissance du capital qui va plus vite que l'économie. La solution, elle est très simple, c'est l'actionnaire salarié. Mm-hmm. Et donc, maintenant, on a une belle expérience.
Et cet actionnaire salarié, il faut une volonté de la part de la direction.
À la fois la direction et les employés. Mm-hmm. Hein? Alors, moi, j'ai pratiqué ça depuis très longtemps. Il est évident, et je peux vous le dire, que les entreprises d'actionnaires salariés ont des meilleures performances que les entreprises sans actionnaires salariés parce que quand vous êtes associé en tant qu'employé au capital et à la stratégie de la boîte, ça change complètement l'ambiance et on est beaucoup plus efficace.
Mais y compris aujourd'hui, Xavier, où on voit qu'on a un peu moins de fidélité par rapport à son entreprise, on voit les jeunes aujourd'hui.
Quand vous quittez l'entreprise, vous partez avec vos droits et vous remettez les droits dans la nouvelle. Vous comprenez? Hein? Mais il est vrai que les entreprises à actions à salariés ont du personnel plus fidèle.
D'accord.
Parce qu'ils ont du capital. Et alors moi, j'ai vu, quand la part dans l'entreprise est plus grande que la maison ou l'appartement, alors là, je peux vous dire que là, ça change. Parce que l'employé, ça devient vraiment... devient participant à la décision. J'ai vu ça chez Essilor, ça a été un des éléments du succès de la maison. Voilà pourquoi je milite pour l'actionnaire salarié.
L'actionnaire salarié.
Vous m'excuserez d'en parler dans cette émission, mais voilà. Ouais, oui.
Non. Puis on voit bien.
Il faut réfléchir.
Non, puis on voit bien le cheminement de pensée.
Vous avez compris le cheminement de la pensée.
Et puis voilà, vouloir taxer qui au départ. On se dit, il y a un principe d'égalité, hein. Comment on dit, taxe Zucman, voilà. On se dit, les gens qui ont plus de 100 millions une fortune à plus de 100 millions. Oui, ben, pour effort national de prendre 2%. Mais après, c'est vrai que quand on regarde au niveau de l'entreprise, c'est dramatique.
Ça casse l'entreprise. Ça casse complètement l'entreprise. Donc, il y a ça. Et je pense que ce serait très sain. Alors, c'était le grand Charles, si vous voulez. Le grand Charles, lui, qui était un militaire, avait eu l'intuition de l'intéressement. Puis après, il fait la participation. Mm-hmm. Si le grand Charles était là, je vous parie qu'il pousserait aujourd'hui l'actionnaire salarié. C'est dans la continuité. Parce que quand vous avez de l'intéressement, vous participez à la création de valeur de l'année. Oui. Alors que l'actionnaire salarié, vous participez à la création de valeur du capital.
En plus, si
l'actionnariat... Avec le multiple, avec le PI.
Ouais,
en plus, voyez, c'est 10 fois plus.
Et en plus, si l'actionnariat salarié, parce qu'on se dit, je suis pieds et poings liés à mon entreprise, mais pas du tout.
Ah non.
On peut quitter l'entreprise et garder ses actions.
Vous partez avec vos droits et la nouvelle entreprise, vous donnez des nouveaux droits. Donc tout ça, ça se règle avec des gens qui vraiment ont compris. On vous règle le truc en deux coups de cuillère à peau, c'est pas compliqué.
Eh bien, merci Xavier Fontané de nous avoir expliqué tout ça. Réécoutez bien cette émission, regardez bien les schémas pour bien vous imprégner tout ça. Vous allez comprendre, c'est assez facile avec ces tableaux simplifiés. Merci Xavier Fontané de nous avoir accompagné sur
merci
ce
beaucoup.
BFM Stratégie, donc spécial fiscalité, et notamment autour de cette taxe Zuckman. Et on voit comment ça casse les pattes, oui, n'ayons pas peur de le dire, d'un entrepreneur qui voudrait progresser, s'endetter pour davantage développer son entreprise. Voilà, émission à retrouver en replay, bien entendu, sur notre site, sur notre chaîne YouTube et puis sur tous les modes replay de notre plateforme. Excellente semaine sur BFM Business.
Merci. BFM Stratégie sur BFM Business.